Bonjour, avant d'écouter donc cette toute première revue de presse JV Family Pack, j'enregistre une toute petite mise en garde pour vous prévenir que cette émission a été enregistrée avant les annonces liées au 35e anniversaire de Super Mario Bros. Sinon, on en aurait parlé et on va en parler lors du prochain Family Pack qui va s'enregistrer la semaine prochaine. Et aussi, l'émission a été enregistrée avant donc le contenu qui a été dévoilé pour la saison 2 de Fall Guys. Voilà, on a eu aussi pour cette première des tout petits soucis au niveau de l'enregistrement. Alors, ils sont pas très nombreux, vous verrez. 3-4 fois pas plus dans l'émission, vous allez entendre un petit peu un effet d'écho. Mais sinon, pour le reste, hein, ça roule très très bien. On va optimiser l'équipement d'enregistrement, puisque là, on a enregistré vraiment à 3 autour d'une table, hein, ce qui est une nouveauté pour la revue de presse JV, contrairement à l'édition habituelle où je suis tout seul. Mais bon, globalement, ça s'écoute très bien. Voilà, je voulais juste vous préciser ceci et je laisse l'émission démarrer. Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour cette première revue de presse JV Family Pack. Oui, c'est une idée qui me trotte en tête depuis au moins une bonne année. Déjà, on se dit qu'on n'a jamais le temps, mais à force de penser ça, bah finalement, on ne fait jamais rien. Donc, il était temps de se lancer. Family Pack, c'est quoi ? Eh ben, c'est une revue de presse JV qui se concentre vraiment sur nos goûts familiaux. On va se lancer tout de suite, hein, vous comprendrez très rapidement le concept. Donc, est avec moi aujourd'hui mon épousée, celle qui vendrait son âme au diable pour un nouveau Kingdom Hearts ou un nouveau Devil May Cry. Natacha, bonjour.
Salut à tous.
Est avec moi le plus intelligent, le plus beau, le plus costaud, c'est normal parce que c'est mon fils. Axel, 10 ans, est avec nous. Bonjour Axel, 10 ans, on va t'appeler Axel tout court, ça sera plus simple. Bonjour Axel.
Ça gaze.
Ça gaze pas mal, effectivement. Alors, le principe de l'émission, c'est de parler de nos goûts en termes de jeux vidéo. On va commenter aussi les news qui nous ont tapé dans l'œil, hein. C'est normal, c'est la revue de presse JV. Le but, en fait, est celui-ci. Je sais que pour l'édition quotidienne de la revue de presse JV sur ce même flux, je sais que beaucoup de familles m'écoutent et je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'avoir une émission vraiment familiale, à quelle cadence je pense qu'on va essayer d'en faire une par mois. Mais bah, peut-être pour donner envie à d'autres familles de se lancer dans tel ou tel jeu ou de réfléchir sur telle ou telle thématique. On verra bien, c'est la première, hein, donc tout n'est pas encore gravé dans le marbre. Ce que je propose, c'est qu'on commence avec deux petites news qui, je pense, vont vous intéresser. La première va, je pense, plutôt intéresser Axel, puisqu'on va parler de Fall Guys. On en parlera plus précisément tout à l'heure, hein. C'est l'un des jeux du moment, donc on va en reparler tout à l'heure. Mais Fall Guys, j'ai pu lire sur GameCult qu'un patch allait arriver, un nouveau patch encore, et que la saison 2 allait commencer à pointer le bout de son museau. Alors Axel, ça va sûrement t'intéresser. Je rappelle que Fall Guys est dispo sur PC via Steam, hein, si je dis pas de bêtises, et PS4. Donc toi, tu y joues bien sûr sur...
Bah PS4, parce que moi, je suis pas trop gamer PC.
Voilà, il fallait que ce soit dit. Donc, le patch devrait arriver cette semaine, hein, une mise à jour qui devrait offrir des options de configuration basiques, mais absentes, hein, nous dit GameCult, depuis le lancement du jeu. À savoir, alors Axel, je sais pas si ça va t'intéresser, mais la possibilité pour les joueurs PS4 d'inverser les axes X ou Y pour le contrôle de la caméra... T'as pas de problème avec la caméra sur Fall Guys, toi, il me semble. Avec les sticks, ça se passe bien.
Il y a seulement un mini-jeu sur le jeu qui est, ou un endroit avec la caméra qui pose problème. Mais sinon, à part ça, la caméra est parfaite.
D'accord. Bon, alors apparemment, il y aura moyen d'inverser la manipulation de la caméra. Une mise à jour qui va aussi améliorer la performance de l'interface utilisateur sur les modèles non pro. Ça tombe bien, nous, on a un modèle non pro. Divers correctifs, etc. Alors, je mettrai la news dans la description de l'émission, je ne vais pas tout détailler maintenant, mais ce qu'il faut retenir, c'est que là, au moment où on enregistre cette semaine, jeudi soir, donc dans quelques jours, il y a la version en ligne de la Gamescom, et Devolver Digital, hein, qui édite le jeu, va en profiter pour commencer à teaser donc sur la saison 2 qui est attendue début octobre. Voilà. Ce que je voulais dire aussi, c'est que sur mobile, parce qu'on en parlait, Axel, hier, tu te souviens, on se disait que Fall Guys, finalement, est dispo sur PS4, sur PC, et c'est déjà un énorme carton. Il y a des estimations qui montent jusqu'à 10 millions de joueurs, c'est quand même assez ouf. Mais il est disponible donc que sur PS4 et PC. Et on se disait, le jour où ça va arriver sur Switch, ça va être une déferlante. Mais aussi sur mobile. Mais pour l'instant, Fall Guys sur mobile, ce sera disponible qu'en Chine, c'est-à-dire sur tablette ou téléphone portable pour l'instant. Il n'y a que le marché chinois qui est visé. Je pense, façon Axel, que Fall Guys, t'as commencé sur PS4. Quoi qu'il arrive, tu continueras sur PS4, même si t'es un gros joueur de Switch.
Oui, parce que moi, chaque jeu que je fais, de toute façon, je continue sur toujours la même console. Je ne change pas.
D'accord, donc Minecraft, Fortnite, c'est sur Switch. Ouais. Et là, du coup, Fall Guys, comme il était dispo que sur PS4, en tout cas dans sa version console, tu continues sur PS4.
Bah ouais. Après, Minecraft, tu l'as commencé sur PS4, tu l'avais pas commencé sur Switch à la base.
Ah, maman a raison. Maman marque un point.
Ça, j'avoue, les Minecraft PS4, après ça m'a lassé, j'ai décidé de jouer sur notre console. C'est vrai que pour certains jeux, je change de version. Mais pour Fall Guys, ça changera pas.
Bah justement, en parlant de la Switch, la deuxième news que je voulais vous soumettre aujourd'hui, c'est la rumeur de plus en plus persistante. Alors c'est une rumeur d'un nouveau modèle de Switch, ça fait déjà longtemps qu'on entend cette rumeur, mais là visiblement, plusieurs sources très sérieuses concordent sur le fait qu'une nouvelle Nintendo Switch devrait arriver pour 2021, qui serait compatible 4K, qui serait plus puissante, hein. On parle d'une puissance de calcul améliorée. Moi, j'ai envie de vous dire, tout ça, c'est très sympa. Moi, ce que j'aimerais surtout, ce serait que la fiabilité du matériel soit améliorée et qu'il n'y ait plus ce foutu Joy-Con Drift. J'en ai beaucoup parlé dans la revue de Presse JV ou ceux qui me suivent sur Twitter, mais c'est vrai que le fait que les Joy-Con bug très souvent, c'est une catastrophe. D'ailleurs, Axel, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus précisément? De quelle façon tu joues sur Switch, sachant que je précise, je t'ai racheté différents modèles de Joy-Con, qu'ils soient officiels ou d'autres marques, et au bout d'un moment, ça finit toujours par bugger de toute façon.
Bah oui. Bah ça paraît logique parce que dès qu'on voit la Nintendo Switch pour la première fois, on voit que le matériel est vraiment très fragile.
Oui, c'est le seul. C'est un gros défaut, hein. Moi qui suis fan de Nintendo depuis toujours, je suis très en colère contre Nintendo au niveau fiabilité matérielle. Natacha, toi, ta Switch ?
Après, parlez pour vous, parce que moi, j'ai toujours les Joy-Con de base et ils marchent très bien.
Moi, je joue plus les Joy-Con depuis bien longtemps. Maintenant, j'utilise une manette Zelda qui, elle aussi, ne bug pas du tout, à part si les piles dedans sont mortes.
Oui, voilà. Alors, il faut savoir qu'Axel joue avec une manette que... On n'a pas pris la manette Pro, j'aimerais bien la prendre, mais quand on voit le prix, c'est même encore plus cher qu'un jeu, donc c'est assez ouf. On t'a pris une sorte de manette qui ressemble un peu à un pad Xbox, mais version Switch, quoi. Manette Zelda, qui marche à pile et qui marche très bien. Du coup, tu joues après une nouvelle panne, on va dire, en tout cas un nouveau Joy-Con Drift, des derniers Joy-Con que je t'avais acheté. Là, tu joues avec cette manette, effectivement, et tu joues donc soit en mode télé, soit en mode tablette sur table, en fait. Ou tablette sur les genoux.
Bah, je joue... En fait, je joue avec la manette dans tous les styles qu'on peut jouer avec la Switch.
Est-ce que t'es quand même dégoûté? Est-ce que tu regrettes quand ça marchait bien avec les Joy-Con? Ou jouer comme ça avec la manette Zelda, ça, finalement, c'est pareil. Est-ce que tu regrettes l'époque où tu jouais avec les Joy-Con en mode nomade?
Pas du tout.
Non? Ok.
Non, au contraire.
Je trouve ça plus pratique.
Largement.
Ok, bah écoute, c'est cool. Bon, toi, Natacha, parce que tu as ta Switch, il faut rappeler que lors de ton ancien boulot, tes gentils collègues qui nous écoutent pas, donc à mon avis, ça sert à rien de les saluer, mais t'avais offert une Switch.
Oui, comme cadeau de départ. Comme
voilà, c'est quand même sympa. Donc tu as ta propre Switch.
Exact.
Pour l'instant, t'es pas embêté avec le Joy-Con Drift.
Non, moi mes Joy-Con fonctionnent toujours super bien. Bon, après c'est vrai que j'ai pas un rythme de jeu qui est le même que celui d'Axel, hein, et j'ai pas franchement le temps de jouer énormément. Mais moi elle fonctionne très bien et j'en suis très contente parce que si je devais jouer avec la manette comme je vois jouer Axel, je serais très 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 embêtée.
Ouais, mais toi en général en fait, tu varies pas trop de jeux parce que toi en général tu joues à Rick Fit Adventure.
Oui, bah t'es pas obligé de préciser et puis ça fait longtemps que je l'ai pas lancé.
Madame, ma femme, j'aimerais te préciser quand même que t'as pas le temps de jouer. En ce moment, tu joues beaucoup sur téléphone portable aussi, hein, on va pas se le cacher. D'ailleurs, il y aura un sujet là-dessus, mais ce sera pour la prochaine.
Mais de toute façon, je suis une joueuse portable, moi. Je suis pas une joueuse console, de me mettre devant la télé pour jouer à la
Switch, console.
Bah
la Switch, une console portable.
Oui, mais...
T'as pas trop le temps de jouer à la Switch, tu dis.
J'y joue. Non mais j'y joue, mais bon après je suis sur un jeu qui est relativement dur, on en parlera tout à l'heure, et voilà, du coup, j'ai
quand
du mal à avancer.
Quand tu commences à rager, tu rage quit, comme disent les jeunes.
Ah c'est ça où je la balance par la fenêtre, donc peut-être mieux.
On va peut-être rappeler pour ceux qui sont pas au courant, ce qu'est le Joy-Con Drift, est-ce que tu veux nous en parler Natacha?
Je crois que ce sera plutôt Axel qui va vous en parler, il connaît mieux que moi.
Axel, donc le Joy-Con Drift.
Alors le Joy-Con Drift, en fait, c'est le Joy-Con en fait, qui fait que de bugger, voilà. Le menu se déplace automatiquement, le personnage déplace automatiquement.
C'est une direction, c'est les directions qui s'opèrent automatiquement, comme tu dis. Et du coup, bah, dans les jeux, moi j'ai souvenir, j'en ai souvent parlé dans la revue de Pré-GG, mais j'ai souvenir d'une après-midi, hein, c'était l'année dernière. On t'avait reçu des copains, je sais plus qui exactement, mais je sais qu'il y avait au moins deux, il y avait un copain et une copine à la maison. Vous aviez voulu faire du Mario Kart, donc sur Switch, et ça n'a pas été possible parce que Joy-Con Drift, donc ça veut dire que le kart partait tout seul vers la droite ou la gauche, dans les menus ça partait dans tous les sens, donc c'est le stick qui se dirige tout seul en fait. Alors il y a un service SAV effectivement de Nintendo où il y a toute une procédure pour faire un remplacement, etc. Mais je vous avoue que on court tellement toute la journée, il y a déjà tellement d'autres soucis à régler que je le confesse aisément, on a un peu la flemme de faire ça, donc du coup on adapte un peu notre manière de jouer et voilà, on est quand même très en colère envers Nintendo. Bouh, Nintendo c'est pas bien. Qu'est-ce que t'as envie de dire à Nintendo, Axel, pour crier toute notre colère sans gros mots? C'est une émission familiale.
Votre matériel est tout pourri, il est pas de bonne qualité, vous avez le pire matériel pour une console nouvelle, pour une nouvelle console.
Voilà, donc pour la Switch, on va dire V2, j'espère que là-dessus, ils vont s'améliorer, parce que le pire, c'est que même sur la Switch Lite, donc, Lite, qui est 100% portable, dont les Joy-Con ne se décrochent pas, il y a aussi du Joy-Con Drift, donc c'est un scandale.
Ce qui est assez paradoxal pour Nintendo, qui était connu pour ses consoles qui étaient quasiment increvables depuis une époque.
C'est ça qui me rend dingue. C'est que jusqu'à la GameCube, même la Wii, hein, c'était indestructible. Voilà, donc leurs jeux sont toujours aussi extraordinaires. Et par contre, le matériel, c'est compliqué. Oui, Axel, on va finir avec ce sujet. Vas-y, dis-nous. Parle maintenant ou tais-toi à tout jamais.
C'est ce que pour moi, en fait, le matériel, par exemple, de la PS4 est 1000 fois meilleur que le matériel de Nintendo.
Ah bah, c'est beaucoup plus fiable. Alors, nous, on n'est pas Xbox, mais c'est vrai que nous, on est plutôt le duo toujours Sony-Nintendo. Mais c'est vrai que du côté de PlayStation et de Xbox, c'est sûr que le matos est quand même beaucoup plus fiable et agréable à utiliser, à mon avis. Oui, Axel, tu voulais rajouter un truc?
Alors, j'ai envie de dire un truc sur nos goûts. Alors nous, on n'aime pas les Xbox, à part la Xbox 360, qui était seulement bien. Mais sinon, nous, on est team PS4, Nintendo... Ou Sega aussi, mais ils font plus de consoles depuis bien longtemps.
Voilà, bah justement, tu me tends une perche pour la suite de l'émission, puisque tu as 10 ans, tu me parles de consoles Sega fait plus de consoles, alors que tu n'étais pas né quand Sega faisait des consoles. Et ce qui est génial, c'est que tu es un fan aussi de Sega, comme nous. Tu adores les jeux Sega et tu adores, d'une manière générale, et là, ça ne concerne pas que les jeux Sega, mais tu adores les jeux rétro. Et c'est le sujet, alors Axel a son petit sujet, Nat a son petit sujet, et après on va passer au gros sujet de l'émission. Je voulais qu'Axel nous parle de ça, parce que bon, il a toujours aimé jouer aux jeux rétro, tout comme aux nouveautés, puisqu'à la maison on joue autant aux jeux rétro qu'aux nouveautés, on fait pas de distinction, hein, voilà, un jeu vidéo c'est un jeu vidéo, qu'il soit sorti il y a 20 ans ou la semaine dernière. Et il y a plein de jeux rétro que t'adores, Axel, beaucoup de jeux 8 bits, beaucoup de jeux 16 bits, Mega Drive, Super Nintendo, et en ce moment, ce que tu adores faire, c'est des jeux que tu as déjà fini 50 000 fois, que ce soit des jeux Mega Drive ou Super Nintendo. Donc le petit truc que tu aimes bien faire en ce moment, c'est de déclencher des glitches, des bugs connus de certains jeux rétro. Est-ce que tu veux nous en parler?
Bah, comme par exemple sur Sonic 1, je fais tout le possible pour réussir sur un glitch.
Alors sur Sonic 1, est-ce que avant qu'on parle de Sonic, tu veux me parler déjà celui que tu as réussi à faire d'ailleurs?
Ah oui, c'est...
J'avais fait un screen d'ailleurs sur mon Twitter, je l'avais posté, sur Super Mario Bros, donc le tout premier de la NES. Il y a un glitch que tu voulais absolument faire, qui est connu, mais bon, par les fans hardcore de Mario. Est-ce que tu veux nous en parler?
D'ailleurs, puisqu'en émission, comme je suis sympa, je vais même expliquer comment le faire.
Alors vas-y, explique-nous.
Alors, tout simplement, faut être en grand Mario ou en Mario de feu, ça marche aussi. Mais pour réussir le glitch, faut obligatoirement être dans un château de Bowser, sinon ça va jamais marcher.
Donc, faut arriver... Alors, n'importe quel château, premier, celui du monde 1, c'est bon?
Oui, n'importe lequel. Mais le plus conseillé, c'est de le faire dans un château où il y a une plateforme. Parce que c'est beaucoup plus facile.
Alors explique-nous, c'est quoi déjà, avant d'expliquer comment faire ce glitch, rapidement, c'est quoi le résultat de ce glitch? C'est quoi ce glitch?
Alors le glitch, tout simplement, c'est de, Alors là, vous allez vous dire, mais c'est impossible, il nous troll. Mais pas du tout. C'est un glitch qui permet de devenir en mini Mario de feu.
D'accord, donc ceux qui connaissent Mario, c'est tout bonnement impossible d'être en mini Mario de feu.
Juste question bête, hein, parce que voilà, mais à la base, déjà c'est quoi un glitch?
Tout simplement un glitch, en fait, c'est un bug qu'on réalise sur le jeu.
Alors un glitch, c'est pas forcément quelque chose qu'on réalise, ça peut arriver aussi. En gros, c'est un bug, voilà, et là on parle de bugs, de glitch qui sont provoqués par les joueurs qui connaissent le jeu par cœur et toutes ses failles. Et sur YouTube par exemple, c'est assez intéressant de voir sur des jeux rétro ou même moins rétro comment des joueurs cassent entre guillemets le jeu pour engendrer des situations qui ne sont pas possibles autrement en fait.
D'accord, c'est déjà beaucoup plus clair pour moi.
T'as raison, parce que c'est vrai que j'essaye de chaque fois d'expliquer, mais comme nous on baigne là-dedans, celles et ceux qui nous écoutent sont pas forcément au fait de tous les termes, donc t'as bien fait de demander une précision. Alors Axel, oui, donc du coup, ce glitch, tu disais, c'est pour, donc dans Super Mario Bros 1, être en mini Mario de feu, sachant que c'est normalement impossible, puisque quand on est Mario de feu, on est fatalement en grand Mario.
Bah oui, ça c'est littéralement impossible, mais il existe un glitch.
Alors comment, alors un glitch pour devenir mini Mario de feu.
Voilà.
C'est-à-dire, t'es en Mario comme quand tu t'es fait toucher et juste avant de mourir au prochain coup, quoi. T'es en mini Mario, mais tu peux lancer des boulettes de feu. Alors, comment on fait?
Alors tout d'abord, vous devez être en grand Mario ou en Mario de feu, comme je l'ai dit, ça marche aussi. Mais dans un château de Bowser, sinon ça va jamais marcher. Alors ce glitch, il est vraiment très difficile à faire. Si vous arrivez à le faire, c'est que vous êtes des boss.
Vous avez entendu, si vous y arrivez, vous êtes des boss.
Ce qui implique que tu en es un, puisque t'as réussi à le faire.
Je l'ai fait que deux fois.
Il faut savoir humilité garder et raison conserver. Alors vas-y, dis-nous.
Vous devez vous faire toucher par Bowser et prendre et toucher la hache en même temps.
Alors, je refais des précisions, c'est-à-dire que quand on arrive à la fin d'un château, quand on affronte Bowser, en fait c'est pas Bowser, mais on va pas partir sur un débat de 3 heures sur...
Le faux Bowser.
Quand on arrive au boss en tout cas, d'un château de Super Mario Bros 1 sur NES, il faut contourner Bowser ou soit le tuer, mais il faut activer la hache qu'il y a derrière lui pour ouvrir la porte, faire chuter le pont et faire chuter Bowser, etc.
En fait,
voilà.
Vous devez entendre, en fait, pour être sûr que ce soit bien validé, vous devez entendre le bruit de Mario qui devient petit et puis le sol qui s'effondre en même temps. Si vous entendez ça en même temps, c'est que c'est validé.
Alors, je reprécise, ça veut dire qu'il faut donc aller dans un château, être en grand Mario. Quand on arrive devant Bowser, il faut sauter par-dessus lui à l'aide d'une plateforme, c'est plus simple. Et quand on atterrit, il faut en même temps se faire toucher par Bowser et toucher la hache qui ouvre la sortie. Faut que cette action se déroule au même moment. Et je t'ai vu réessayer je ne sais pas combien de dizaines de fois, en l'impression que c'est à la fraction de seconde près, ou à la seconde près tout du moins, pour que ça fonctionne. Et donc quand ça fonctionne, comment tu sais que ça a réussi?
Alors pour être vraiment sûr, faut que après, quand Mario s'approche vers Toad, faut qu'il reste en grand Mario. Si vous avez entendu le bruit que Mario se devient petit et le bruit du sol qui s'effondre en même temps, et que après que Mario reste en grand Mario, là c'est confirmé, vous avez réussi la première étape.
Alors donc la deuxième étape, c'est-à-dire qu'au niveau suivant...
Ah bah s'il y en a d'autres,
ça veut... Non mais là, c'est-à-dire que tu finis, t'es en grand Mario.
Ouais.
Mais alors on parlait d'un mini Mario de feu, alors je comprends pas.
C'est vraiment extrêmement difficile à croire, mais alors après, vous devez taper sur un bloc point d'interrogation. Alors après, vous allez dire, mais c'est pas possible. Ça va vous donner un champignon qui devient grand, même si vous êtes en grand Mario. Et puis là, vous allez devenir tout petit. Puis si vous faites toucher, vous redeviendrez grand en grand Mario. Et oui, je sais, ça c'est très difficile à croire. Mais après, le prochain bloc point d'interrogation où il y a un truc dedans, vous verrez une fleur de feu. Et quand vous allez dessus, boum, vous avez fini le glitch et vous deviendrez mini Mario de feu.
Donc on passe de grand Mario à mini Mario de feu. Quand on perd une vie, après tout ça, ça retombe à zéro. Le glitch, il est plus là et...
Ouais, va falloir se retaper le truc.
Voilà, donc pour celles et ceux qui veulent essayer, alors je sais que t'aimes beaucoup faire ce genre de glitch, et donc là, très rapidement, avant qu'on passe au sujet de maman, là t'essayes de recréer un glitch sur Sonic 1 Mega Drive. Et quel est ce glitch que tu essayes de reproduire sur Sonic 1?
Tout simplement, c'est un glitch à Marble Zone. Disponible seulement qu'à l'acte 2 ou à l'acte 3.
D'accord, donc Marble Zone, c'est le deuxième monde de Sonic. Oui, c'est pas le glitch qui te fait rentrer dans le décor et après tu files à toute berzingue à travers les décors sur
ouais,
la droite.
Et puis après, le panneau d'arrivée, il de... Ça, c'est des, en fait des caisses d'objets, et puis les badges de points, c'est en fait c'est les ennemis oiseaux de Marble Zone. Ouais, et il y a même un mur transparent même.
Bon, alors pour terminer, pourquoi tu aimes faire créer ces glitches là en fait?
C'est très simple. Parce que en fait, j'aime bien faire des glitches. Tout simplement, j'ai voulu faire des glitches sur Fortnite, mais je me suis rendu compte que c'était la pire chose à faire. Alors parce que, pourquoi je fais ça sur les jeux rétro? Parce qu'on n'est pas surveillé. Voilà, on peut faire tout ce qu'on veut dans les jeux hors ligne. Mais alors que dans les jeux en ligne, par exemple, c'est... Bah là, on peut se faire bannir.
C'est intéressant parce que t'as entendu parler de joueurs peut-être qui ont voulu faire glitcher Fortnite et qui se sont fait bannir, c'est ça?
Ouais, j'ai déjà même croisé des hackers sur Fortnite.
Et oui, mais sur les consoles 16 bits, c'était le temps où les consoles n'étaient pas connectées, donc les jeux n'étaient pas patchés parce qu'ils sortaient déjà. Là, je suis en mode vieux grincheux, hein, pour rester poli. Les jeux sortaient bien finis, la plupart du temps, hein, y a des exceptions, bien sûr. Et pas besoin de patch, mais t'étais pas surveillé, tu jouais sur ta console et tu pouvais faire un petit peu ce que tu voulais. Bon, eh ben écoute, c'est top, Axel, merci pour ce témoignage poignant et émouvant sur les glitchs. En parlant de glitch, je pense que Natacha, il y a Madame Maman, il y a un jeu qu'elle aimerait bien faire glitcher, je pense, c'est Ori and the Blind Forest. Puisque c'est ton sujet pour ce premier numéro de la revue de presse JV Family Pack, tu t'es lancé sur Switch dans Ori and the Blind Forest, qui date pas d'hier, mais qui est un jeu qui s'est vraiment fait énormément remarquer à l'époque, de par surtout sa beauté et certaines idées de gameplay qui sont vraiment pas bêtes du tout. Est-ce que tu veux nous en parler, très chère Madame Maman?
Je me sens comme Nicole Waterson dans Gumball.
Oui, oui, c'est une référence à Gumball. Hein.
Oui, donc moi, je voulais parler de Ori and the Blind Forest. Bon, certes, j'ai 5 ans de retard, mais ça, c'est un peu ma marque de fabrique. Vous remarquerez que je joue toujours au jeu avec 15 ans de retard, sauf mes grosses licences, comme l'a dit Bruno, Kingdom Hearts et Devil May Cry, où là, bon, bah, c'est Day One, hein, ça, c'est impossible de faire autrement. Mais sinon, à part ça, je découvre souvent les jeux en retard par rapport aux autres. Et là, j'ai découvert sur un sujet de Game One, la suite d'Ori qui sortait, qui s'appelait Ori and the Will of the Wisp.
Spécial dédicace, Julien Tellouk, parce que c'est un sujet de Julien Tellouk qui testait...
Voilà, pour une fois, j'ai regardé un sujet de Julien Tellouk.
Et t'es tombé sous le charme, pas de Julien Tellouk, mais du jeu.
Et voilà, et je suis tombée sur ce jeu qui m'a paru d'une poésie monumentale et une bande-son qui m'a happée dès les premières images. Du coup, je me suis dit, je vais me garder le 2 et je vais commencer par le 1. Et en fait, je ne résiste pas à l'envie de vous en parler parce qu'effectivement, c'est un jeu d'une poésie rare... avec une bande-son, mais qui est juste à tomber. Tout à fait mon style. Alors, il est un peu dur, même si je le fais en facile, parce que moi, je suis pas une grande joueuse, vous l'apprendrez au fur et à mesure, sûrement, des émissions. Je suis pas une très grande joueuse, donc je le fais en facile. Et même là, j'avoue, je galère un petit peu.
Est-ce que tu peux nous rappeler déjà, c'est quoi, Ori and the Blind Forest? C'est quel type de jeu?
Ah bah oui, il t'oppose une colle.
il est taquin, ce petit.
Je sais quand même, merci. C'est un jeu de plateforme, en fait, un jeu action-plateforme qui se passe dans une forêt merveilleuse où on incarne un esprit qui a été recueilli par un autre esprit de la forêt. Et son papa tombe malade et il doit partir chercher la lumière pour repeupler la forêt, pour redonner vie à un arbre majestueux qui fait vivre toute la forêt, en fait. Et ben, je suis tombée amoureuse de l'histoire. Je suis tombée amoureuse de ce qu'a fait Moon Studio pour ce jeu.
Oui, c'est Moon Studio. Hein. Voilà. Je fais juste une petite précision, c'est que c'est un jeu qui est un petit peu dans cette vague Metroidvania, c'est-à-dire que t'as une map, t'as pas accès à tous les chemins, oui, et au fur et à mesure des capacités que tu débloques...
Il faut revisiter plusieurs zones, voilà, oui. Alors, il y a certaines zones que j'ai déjà passées où j'ai bien galéré à dépasser. Je me dis, s'il faut que j'y retourne, ça va être la mort. Mais bon, il faudra bien que j'y m'y colle. Hein. Je pense qu'au fur et à mesure du jeu, ça devrait moins poser de soucis, je pense. C'est vraiment une très 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 bonne surprise. Et pourtant, moi qui suis... C'est effectivement un peu comme mon fils, j'ai beaucoup de mal quand j'y arrive pas à ne pas rage quitter. Là, je m'échine à y arriver. Et c'est bizarre parce que d'habitude, ce genre de jeu, je les arrête au bout de, allez, une demi-heure quand ça me gonfle trop. Et j'y retouche plus. Parce que pour moi, j'y arriverai pas et que ça sert à rien. Et celui-là, rien que pour la musique de fond, eh ben, le Die and Retry, qui est quand même, pour quelqu'un comme moi, assez difficile à gérer, ne me dérange pas plus que ça. Et j'avance, alors j'avance pas de beaucoup à chaque fois, hein. Je pense que je vais mettre 3 ans à le terminer, mais bon, j'y arrive, j'avance et je suis très 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 contente de ma découverte.
L'une des spécificités de, on va peut-être finir avec ça, de Rain the Blind Forest, c'était aussi que tu pouvais, alors c'est de le retirer dans le 2 d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que tu gères tes checkpoints en fait, tu gères tes points de contrôle.
Oui, ça c'est horrible. Ça c'est horrible parce que
si des tu fois, te plantes, t'as peur de te planter en fait.
Ah non, c'est même pas une question de ça, c'est que ça m'est arrivé d'arriver au bout d'une demi-heure à passer un passage, ne pas pouvoir mettre tout de suite de point de sauvegarde parce que j'avais pas assez d'esprit pour pouvoir mettre un point de sauvegarde, de me planter et de devoir tout recommencer.
Ouais, ça c'est relou.
Et c'est horrible.
C'est un jeu aussi qui, malgré l'accueil critique dithyrambique qu'il a eu à l'époque, on a quand même lu parfois des critiques légèrement négatives sur le fait que le jeu était peu lisible, parce qu'il est tellement beau, il y a tellement d'effets de couleurs, de lumière, de particules, que parfois, ça empiète un peu sur la visibilité globale. Est-ce que ça, tu l'as ressenti ou pas? Parce qu'en mode nomade, ça doit être chaud quand même parfois.
Eh ben, moi, j'y joue que en mode nomade, puisque souvent, Axel est à côté de moi en train de jouer à la PS4, donc j'ai pas la télé, et souvent, on a envie de jouer au même moment, c'est ballot. J'ai pas eu ce problème-là, moi. Je vois pas où la lisibilité...
D'accord,
mauvaise.
Non, mais c'est intéressant d'avoir ton avis, parce que je sais que certains avaient pointé
pourtant,
ça.
Pourtant, je suis souvent perdue dès qu'il y a foultitude de choses à l'écran. J'ai tendance à pas tout voir. Là, ça m'a pas dérangé. Honnêtement, c'est pas un point qui m'a dérangé.
Ok, donc en tout cas, tu conseillerais And the Blind Forest, sachant que la suite est sortie là, il y a pas si longtemps que ça. Je vais rappeler que Ori est dit, donc le premier, hein, je précise bien, est dispo donc sur Xbox One, sur PC et donc sur Switch. Hein. Pour l'instant, la seule version console, outre bien sûr la Xbox One, c'est sur Switch. Et donc, il y a la suite Ori and the Will of the Wisp, là, qui est sortie le 11 mars 2020, tout début du confinement, qui lui est disponible sur Xbox One et PC, et qui est encore plus beau. Ce qui est... Enfin, vraiment, je sais que les images de la suite m'avaient aussi... assez scotché. Bah écoute, Natacha, merci pour cette lettre d'amour envers Ori and the Blind Forest, la forêt aveugle, n'est-ce pas? Et maintenant, on va parler du gros morceau, à savoir Fall Guys Ultimate Knockout. Alors, pourquoi on en parle? Parce que c'est le jeu phénomène du moment, et moi, je le vis de plein pied avec Nat à la maison. C'est-à-dire qu'en jeu en ligne, Axel était très Fortnite, depuis pas mal de temps. Quand Fall Guys est arrivé Day One via le PlayStation Plus, moi je l'avais téléchargé. Il en est complètement dingue. Il enchaîne les top 1 que je pose sur Twitter d'ailleurs. D'ailleurs, merci hein, pour tous les commentaires que je lui fais lire à chaque fois, hein, tous vos commentaires. Je vais juste rappeler avant qu'on en parle, reposer un petit peu les bases et après on va en discuter. Donc Fall Guys, c'est sorti le 4 août. Hein, 2020, c'est édité par ce label indé très connu, très rock'n'roll, Devolver Digital, mais c'est développé par les Britanniques de Mediatonic. Donc c'est un jeu multi en ligne qui est seulement disponible sur PC ou PS4, hein, comme on le disait tout à l'heure. Et c'est un jeu, alors moi je l'appelle Interville 2.0, c'est un jeu qui s'inspire en fait des jeux télé. Nous ça nous fait penser à Interville, mais plus globalement on peut penser aussi à Takeshi Castle. On peut penser à Ninja Warrior, etc. Donc c'est plein d'épreuves. Alors il y en a 5 ou 6, hein, Axel, tu nous préciseras. On se retrouve avec une soixantaine de joueurs. C'est plein d'épreuves, en fait, assez rigolotes. C'est des parcours, il faut éviter tel et tel piège, se pousser, machin, etc. Avec des petits bonhommes rigolos. C'est très coloré, c'est très acidulé. Et à la fin, il ne peut en rester qu'un. Et c'est là qu'on fait le top 1. Axel, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Je ne vais pas prendre de détour. Je te le demande en toute franchise. Pourquoi tu aimes jouer à Fall Guys?
Alors, je ne vais pas vous mentir, c'est difficile à dire. Mais c'est parce que je trouvais le concept fun que des petits personnages rigolos passaient dans des émissions télé. Le jeu est très, très coloré. Fall Guys, c'est un peu les émissions des glaces, un peu. Parce qu'il y a des décors de glace, un peu.
De glace?
Mais oui.
Ah, des glaces à manger, tu veux dire?
Ouais, des glaces à manger.
C'est le jeu de la crème glacée?
Un peu, ouais.
En même temps, quand tu tombes dans cette espèce de lave rose, c'est un peu, oui, ça fait, c'est fait un peu crème glacée, ouais.
Ouais, c'est vrai.
Est-ce que, moi, je trouve ce qui est intéressant dans Fall Guys, alors on viendra peut-être plus précisément sur les qualités ludiques du jeu, mais c'est que je pense qu'ils ont tout compris. C'est que quand on n'est pas dans l'univers jeu vidéo, quand on voit son enfant jouer à Fortnite, parce qu'on va pas se le cacher, il y a énormément de jeunes, hein, c'est le plus gros du public qui joue à Fortnite. Axel, il jouait beaucoup. Quand on est dans l'univers du jeu vidéo, on se dit oui, bon, ça va, c'est pas Call of Duty non plus, c'est pas si violent que ça. Fortnite, leur tour de force, pareil, c'est que c'était quand même assez coloré, assez cartoonesque. Alors oui, il y a des armes à feu.
Ça reste assez guerrier quand même, hein.
Voilà, ça reste guerrier et je peux comprendre que ça puisse quand même, bon, faire tiquer certains parents. Tu vois Fall Guys tourner, c'est des bonhommes, on dirait des tic-tac, moi j'appelle ça des tic-tac sur pattes, avec des combinaisons rigolotes de poules, de pigeons, enfin d'oursons. C'est, tout est rigolo, tout est arrondi, tout est coloré. Et alors Axel me dit qu'il n'y a pas d'oursons, donc... Enfin bref, vous voyez, des animaux, des hot dogs, pas mal de choses. Des parents, des parents qui voient leurs enfants jouer à ce type de jeu, ils se disent bah, c'est complètement inoffensif. Et en même temps, il y a le côté compète qu'elle a. Après, bien évidemment, la porte d'entrée est très simple. Mais après, si vous voulez aller plus vite, vous pouvez acheter la monnaie du jeu, etc. Nous, on s'y refuse. On ne veut pas acheter avec du vrai argent, j'ai envie de dire. Et là, je fais les signes des guillemets derrière mon micro, j'ai l'air ridicule, mais... on n'achète pas de vrai argent, on gagne l'argent in-game avec les victoires. Enfin, tu gagnes parce que moi, j'ai essayé quelques fois et je perds souvent. Tu me disais d'ailleurs là-dessus que pour l'instant, alors c'est peut-être parce que c'est le début, hein, on verra après. Pour l'instant, Fall Guys est très généreux pour toi, plus que Fortnite au niveau de la monnaie. C'est les kudos, hein, c'est ça dans Fall Guys, ouais, la monnaie virtuelle.
La monnaie de Fall Guys, c'est les kudos. Même si vous faites éliminer dès la première manche, bah vous gagnez quand même des kudos et un peu d'XP. Bon, très très peu, donc vous gagnez un nombre d'XP misère, vous gagnez que 15 si vous faites éliminer dès la première manche. Mais au moins, on gagne quand même un petit peu de monnaie et c'est ça que je trouve cool. Mais le truc encore plus cool, c'est que dès le départ, ils vous offrent 1000 kudos. Et c'est ça qui rend vraiment le truc du jeu génial. Ça te donne envie de progresser. Le jeu est motivant. Déjà que la musique du menu est très motivante.
D'accord. Est-ce que tu peux nous préciser un petit peu plus comment ça se passe une partie de Fall Guys? Donc tu te connectes,
ouais.
T'arrives sur l'écran d'accueil. Qu'est-ce que tu fais après pour lancer une partie?
Alors j'explique sur PS4 parce que moi je joue pas sur Fall Guys sur PC. En fait, vous appuyez sur croix pour lancer une game, si je ne me trompe pas. Après vous voyez l'animation de votre bonhomme qui est en train de chuter.
Oui, déjà c'est rigolo.
Ouais. Et puis vous voyez, et puis en fait en bas du bonhomme vous voyez le nombre aléatoirement combien sur 60.
Donc ça se joue par groupe de 60 joueurs en fait.
Pas tout à fait, parce que des fois, vu que le chargement dure trop longtemps, c'est pas 60.
C'est-à-dire, ça peut être en dessous, ça peut être...
Ah oui, ça peut être moins. Ça peut être...
D'accord, ok. Donc, première épreuve, vous êtes 60, et selon les épreuves...
Il y a un nombre limité de qualifiés.
C'est-à-dire les premiers arrivés au bout de l'épreuve.
Ouais, alors, ouais, c'est... Mais si vous êtes dans les derniers, vous êtes dans la mouise et vous risqueriez de vous faire éliminer.
Est-ce que tu peux nous dire combien par game, combien t'as d'épreuves en général? Avant de savoir qui a fait top 1.
Alors, peut y en avoir 5, 4 ou 6. Mais il y a une épreuve avec de la lave que je vous expliquerai plus tard qui réduit le nombre d'épreuves. Du coup, peut y en avoir moins.
Oui, mais en fait, tout dépend des épreuves qui sont tirées au sort, hein, aléatoirement. Tout dépend sur quelle épreuve vous tombez et combien de joueurs il reste. Et le jeu s'adapte en fonction de ça, en fait. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui est fun pour toi et à ton avis pour les autres enfants ou même pour les familles? Parce que c'est un jeu qui est actuellement aussi joué aussi par les adultes, hein, pas mal. Qu'est-ce qui fait que les épreuves sont fun pour toi? Parce que c'est des parcours. Donc, il y a un point A et il y a un point B qui est l'arrivée. Et entre, il y a des pièges à éviter, on peut se pousser, on peut... Voilà,
on peut tirer la queue des gens. Ou le corps, si... Ou dans le corps, si les gens ont pas de skin.
Vous voyez, ce qu'il y a une fameuse épreuve où les gens ont des espèces de queues de renard accrochées à leur ceinture, et il faut leur piquer pour...
Ça, je dis en public. Ça, je pense qu'on devra en parler plus tard, parce que déjà, faut déjà parler des premières épreuves.
Non, mais par contre, dans les autres épreuves, pour ceux qui ont un skin avec une queue, tu peux très bien les empêcher d'avancer en leur tirant la queue.
Tu peux faire ça? Non.
Pas sûr que si.
Bah si, c'est largement
si
faisable.
Si t'as une queue de loup, par exemple sur ta skin, même si t'es dans une épreuve ou...
Même les gens qui ont pas de queue, on peut quand même les attraper, ça c'est...
Ah donc tu peux attraper les autres joueurs, tu peux les pousser aussi, non, c'est ça?
Les pousser aussi, mais...
En sautant dessus, quoi, en fait, en sautant dessus, tu les bouscules et tu les fais tomber, quoi, c'est ça?
Ouais, on peut aussi les attraper par le corps, par le devant du corps aussi.
On n'aura peut-être pas le temps de détailler chaque épreuve, mais quelles sont... tes épreuves préférées et pourquoi? Qu'est-ce qui est super fun dans ces épreuves-là?
Mais déjà, pour moi, je pense qu'on devrait plutôt expliquer les styles de jeu, quoi. Déjà, pour bien que les gens comprennent.
Vas-y.
Alors dans la première manche, c'est obligatoirement une course.
Ah oui, c'est intéressant, ça. D'accord, ok.
Donc, dès la première manche, on a une course. Alors, si on est 60... Il y en a 45 qui peuvent être qualifiés. Après la deuxième manche, ça peut encore être une course. Ça peut être un jeu en équipe ou un jeu en survie.
Alors un jeu en équipe, ça veut dire que le jeu, sans vous demander votre avis, sépare tous les joueurs disponibles en deux groupes?
Non, c'est en trois groupes, en quatre ou en deux.
D'accord, et il y a des jeux donc par équipe ou par exemple, je t'ai vu faire une fois, il faut aller récolter des œufs pour les mettre dans un panier, sachant que tu peux aller piquer les œufs de l'équipe adverse. Il y a pas mal de petits jeux comme ça, donc c'est varié quand même.
Ouais, t'as donné une grande variété, t'as un jeu de mémoire, t'as un jeu de chasse, c'est le attrape-queue basique, pas le attrape-queue équipe. D'accord. Parce qu'il existe un attrape-queue épique, mais il y a un basique.
D'accord, et donc ça, jusqu'à la dernière épreuve, et celui qui gagne, hein, donc comme on dit dans le jargon, il fait top 1.
C'est la finale. Alors déjà, je vais, pour les gens qui sont en finale, comprennent... comment avoir la couronne?
Oui, c'est une couronne qu'on doit attraper à la fin, c'est ça?
Il n'y a qu'une seule épreuve qui fait ça, c'est la chute montagneuse. Alors tout simplement, vers la fin de l'épreuve, vous montez sur un truc, il y a deux chemins possibles pour attraper la couronne, et puis en fait, vous sautez vers la couronne, vous utilisez R2 pour vous accrocher dessus, et une fois que c'est fait, c'est validé, vous avez fait le top 1.
D'accord, ok.
Donc en gros, faut passer par en haut, quoi.
Non, si on essaye de monter en haut, c'est pas validé.
Bah, faut bien sauter dessus par au-dessus, donc faut passer par en haut.
Ah non, c'est pas validé, faut essayer d'attraper le centre.
Maman, elle a rien compris, hein.
Le haut, ça marche pas, faut seulement attraper le centre ou le bas aussi, ça peut marcher. Mais si vous grimpez au-dessus de la couronne, c'est pas validé.
Ah d'accord, faut vraiment la choper, quoi, l'attraper.
Ouais,
et...
ouais, au centre ou en bas, c'est les deux comme ça marche.
Madame maman, est-ce que ce type de jeu, toi, ça te parle ou pas du tout?
Bah moi je le vois jouer, ça a l'air super marrant, j'aime bien le voir jouer, j'avoue, je crois pas que j'y jouerais, parce qu'à mon avis ça c'est le genre de truc où je vais très vite m'énerver, mais j'adore le regarder jouer, et je trouve que c'est mieux limite que Fortnite. Sincèrement.
Oui, justement, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est est-ce qu'en tant que parent, on préfère voir notre enfant jouer à un jeu, entre guillemets, qu'utilise pas d'armes à feu, même si, je le répète, Fortnite, c'est pas d'une extrême violence non plus, mais c'est vrai que c'est quand même plus sympa de voir son enfant jouer à un jeu 100% non armé, si je puis dire.
Alors, c'est pas vraiment ça. C'est parce que j'étais pas contre le fait qu'il joue à Fortnite.
Mmh. Non, moi non plus.
Le truc à Fall Guys, c'est que tu développes plusieurs compétences, en fait, notamment avec le jeu d'énigmes, où là, ça fait travailler la mémoire. Les jeux de course, où là, ça fait travailler la dextérité. En fait, chaque jeu, on a l'impression, est plus ou moins pensé pour faire travailler une... Alors moi, c'est la maman qui parle, mais pour faire travailler une aptitude cognitive. Et ça, moi, je trouve ça très intéressant.
Oui, effectivement, c'est vrai que c'est beaucoup plus varié en termes de gameplay. Toi, Axel, du coup, est-ce que toi aussi, t'es d'accord avec ce que dit maman? Est-ce que tu trouves que c'est plus varié, Fall Guys, par rapport à un Fortnite? Tu fais plus de choses dans les épreuves que Fortnite, en fait, c'était... Bon, après, il y a de la stratégie dans Fortnite aussi, hein, effectivement. Construire les barricades, looter, récolter donc des... des ressources, abattre les ennemis, se cacher, etc.
Ouais, mais dans Fall Guys aussi, hein. Parce que pour gagner une course, faut être tactique, hein. Si tu suis tous les autres, t'as quasiment peu de chance de faire top 1.
Ah non, ça dépend. Si tu suis les autres, des fois tu peux gagner. Si, ça. Un peu ça. Ça t'as pas très peu de chance. Des fois tu peux gagner, des fois tu peux te fail.
Est-ce que tu penses que Fall Guys est plus varié que Fortnite? Ça veut dire, est-ce que tu fais plus de choses différentes en termes de gameplay, en tant que joueur, est-ce que tu fais plus d'actions différentes dans Fall Guys que dans Fortnite. Est-ce que c'est plus varié pour toi?
Mille fois plus varié.
Ah oui, carrément, d'accord. Ok.
Et alors du coup, Fortnite ou Fall Guys?
Fortnite ou Fall Guys, que je préfère?
Ouais.
Bah Fall Guys, parce que maintenant, Fortnite, maintenant, maintenant, Fortnite, j'aime plus trop maintenant.
Ah, carrément. Parce que t'as fait le tour, en fait. Ouais. Depuis le temps que t'y joues, t'as tout vu et ça t'a un peu lassé.
Ouais. Ouais, maintenant, Fortnite, je pense que je vais plus y jouer à Fortnite. Parce que j'ai déjà vu tout ce que je fais. Mais Fall Guys, vu que c'est un jeu où il y a vraiment plus de variété, et va y avoir encore plus de variété, moi, Fall Guys, j'y jouerai encore pendant un bon bout de temps.
D'autant plus si les développeurs se décident à mettre peut-être en ligne avec via des patchs des nouvelles épreuves.
Ça manque encore de quelques épreuves supplémentaires. C'est un peu toujours les mêmes qui reviennent, mais c'est le début. Et donc ça va se développer. En plus, là, en octobre, il y a la saison 2 qui va arriver. Ils s'attendaient peut-être pas, je pense, à un tel carton. Vraiment, je pense. Donc, à mon avis, ils vont fournir très, très vite des nouvelles épreuves. Pour revenir rapidement sur Fortnite, où je me suis dit, là, il y a un basculement, c'est qu'à chaque nouvelle mise à jour de Fortnite, Axel allait voir ce qui se passait. Là, ils en ont ajouté une qui est quand même majeure dans Fortnite récemment. C'est l'ajout des véhicules qu'on peut piloter. Et quand j'ai dit ça à Axel, c'était vraiment... ouais, bon...
Tu pouvais déjà piloter des véhicules dans Fortnite.
Enfin, des véhicules, des véhicules roulants, enfin des voitures.
Ah non, c'était des véhicules.
Non, t'avais l'hélico, t'avais le bateau.
Oui.
Mais là, les bagnoles, genre des bagnoles de course, des pick-up, tout ça.
Les camions.
Quoi. Les camions. Là, c'était une des grosses mises à jour récemment. Et Axel, on avait rien à secouer, quoi. Et il était sur Fall Guys. Donc, je me dis que voilà, ça. Maintenant, le seul petit défaut, ouais, je trouve, c'est que ça manque encore de variété d'épreuves. Tu retombes toujours un peu sur les mêmes, mais voilà, c'est le début et peut-être qu'ils ne s'attendaient pas à une telle déferlante. Donc, comme je disais tout à l'heure sur la news Fall Guys, la saison 2 devrait arriver début octobre. Donc là, ça va arriver rapidement, du coup. Donc maintenant, à voir si le succès va perdurer dans le temps ou pas. Mais donc, tu conseillerais, Axel, éventuellement aux parents et aux enfants qui nous écoutent, d'essayer?
Bah ouais, ça vaut le coup. Puis d'ailleurs, j'aimerais parler des techniques qui permettent de faire top 1 sur le jeu.
Alors, vas-y.
Parce que moi, j'ai envie d'aider des débutants sur Fall Guys.
Alors, dis-nous.
Alors, tout simplement, quand on arrive en finale, j'ai déjà dit comment faire le top 1 pour l'épreuve de la chute montagneuse. Il y a aussi une épreuve qui s'appelle l'hexagone infernal. Vous connaissez le concept si tu touches un bloc, tu tombes. Il y a une épreuve dans ce style-là sur Fall Guys, mais c'est pas en carré, c'est avec des hexagones. Tout simplement, pour gagner, il faut être le dernier à tenir au-dessus de la lave.
Alors attends, je précise, t'as plusieurs étages, donc t'as plusieurs sols qui sont à quelques mètres les uns au-dessus des autres.
Tout bêtement, tu marches sur le sol se détruit en même temps que tu marches dessus.
Et tu tombes sur le sol d'en dessous, et tu retombes sur le sol d'en dessous, puis au bout d'un moment, bah, c'est le vide. Et là, t'as perdu.
Puis il y a 8 rangées, d'hexagones.
Il y a 8 étages, quoi, en fait, c'est ça?
Ouais, il y a 8 étages.
Alors, c'est quoi l'astuce, alors, là, pour celui-là?
Alors, j'ai déjà essayé de trouver une technique, mais la technique que je trouvais, en fait, je me suis rendu compte, en fait, qu'elle était pourrie du zizi.
T'as lu ça dans Titeuf, ça, non?
Oh là 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 là, les références!
Ah, c'est vachement bien, Titoff.
J'ai essayé de trouver une technique, mais c'était nul. Alors, en fait, ma technique, c'est que vous allez dans le coin où il y a moins de gens qui vont marcher sur les sols. Voilà. Vous essayez de tenir le plus longtemps possible. Faites de votre mieux. Au bout de quelques parties, vous allez sûrement vous habituer. Mais okay. En tout cas, aux personnes qui jouent à Fall Guys, qui écoutent l'émission, je vous souhaite bonne chance. J'espère que vous vous habituerez à aller en finale et à comprendre mieux comment faire le top 1. Voilà.
Moi j'ai quand même une question, c'est multijoueur ou pas?
Ah oui, ce jeu est multijoueur. Moi je joue solo, j'aime pas jouer multijoueur sur ce jeu, je préfère jouer être tranquille.
On peut jouer en multijoueur local, on peut jouer à deux sur la même console.
C'était ma question, j'ai oublié de préciser le local.
Parce que c'est un jeu multijoueur en ligne, donc
Non, ça c'est impossible, comme Fortnite, ça c'est impossible.
Voilà, mais tu peux faire équipe avec un autre gars, enfin avec un autre joueur connecté, je crois pas que c'est possible ça encore.
Un joueur que tu connais, tu peux pas l'inviter?
Comme avec Fortnite
pas de...
Si, tu peux l'inviter, mais le système est un peu plus compliqué.
D'accord, puis là c'est le début, donc faut avoir le temps de défricher tout ça. Ok, bah je pense qu'on va finir là-dessus. Essayez, puis vous verrez bien. Je trouve que le principe est vraiment sympa. Mais je me disais avec Axel l'autre jour, c'est que ça va bien arriver au bout d'un moment. Le jour où le jeu va arriver sur Switch, ça va être un carnage, quoi. Je pense déjà que c'est un carnage actuellement. Je sais pas. J'ai l'impression que ça va quand même perdurer un minimum. On verra bien. On va suivre ça dans l'émission. En tout cas, on va finir là-dessus. C'était la première de la revue de presse JV Family Pack. Alors, selon vos retours et puis au fil des émissions, on va affiner la formule. Là, c'était une première, donc c'est très certainement perfectible à plus d'un titre. N'hésitez pas à partager un maximum sur Twitter, hein, c'est surtout là que ça se passe, hein, @revue de presse JV, tout collé, vous le savez. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours. Et écoutez, pour une première, je pense que c'était sympa, non?
Ouais, j'ai trouvé ça sympa, moi.
Ça t'a plu, Axel?
Ouais, moi j'ai aimé.
Madame Maman?
Ah, c'était très cool. Moi j'ai bien aimé partager un peu mon avis.
Sauf actualité brûlante et incontournable, lors de la prochaine émission, on va sûrement parler d'un sujet qui est pas si courant en termes de type de jeu. Vous verrez bien, on va parler de ça. Au niveau de la régularité, comme je vous le disais, on va essayer d'en faire à peu près une par mois, on va essayer. En tout cas, si vous découvrez la revue de presse JV par le biais de cette émission, sachez que la revue de presse JV, c'est un podcast quotidien qui, tous les jours, hein, vous délivre l'actualité jeux vidéo, celle qu'il ne fallait pas manquer. Hein. Ça, je vous donne rendez-vous tous les matins. C'est dispo sur toutes les applis de podcast et aussi sur la chaîne YouTube et aussi en IGTV, c'est-à-dire en vidéo sur Instagram. Vous tapez revue de presse JV, hein, vous trouvez tout ça très facilement. Il y a aussi la grande revue de presse JV qui va revenir, vous savez, le grand format. Ça va revenir bientôt. Et puis là, voilà, ce nouveau bébé, cette nouvelle déclinaison, Family Pack, qui me tenait à cœur depuis longtemps, qu'on lance là. Donc on verra bien ce que ça va donner. Bon, en tout cas, je vous dis à la prochaine avec Natacha. Au revoir, Natacha, Madame Maman.
Salut à tous.
Au revoir, Monsieur Fiston, Axel.
Au revoir.
Allez, salut, des bisous et à très vite. Bye bye.